Mémoire d'une aveugle, 13e partie. Nous allions partir lorsque nous vîmes arriver de notre côté deux jeunes cavaliers, dont l'un portait l'uniforme des gardes françaises. Ils riaient de tout leur cœur et semblaient se livrer un combat de politesse. « À vous, chevalier !»«
À vous, marquis !»«
Je ne passerai pas le premier, certainement. »«
Ni moi non plus. »«
Il faut cependant se décider. » « Ah oui, j'en sens le besoin pressant. »«
Voilà des seigneurs fort gais, » dit l'archevêque. « On croirait que c'est à nous qu'ils en veulent. »«
Cela se peut, » dit madame de Tansin en se rengorgeant. « Ils semblent hésiter, nous pouvons les mettre d'accord, » continua sa grandeur. « L'abbé, allez de ma part leur demander à qui vous avez l'honneur de parler et ce que nous pouvons faire pour leur service. »
L'abbé partit. Je ne saurais vous donner d'autre comparaison de sa tournure que celle d'un paon empalé. Son habit et son collet faisaient la roue, et il marchait d'une si singulière façon qu'en le voyant s'avancer, les officiers éclatèrent d'un rire homérique qui nous gagna dans le pavillon. « Monsieur, dit-il après trois révérences lorsqu'il eut rejoint les étrangers, pourriez-vous m'apprendre « qui est ce monsieur que voilà ? Et vous, monsieur que voilà, auriez-vous l'obligeance de me faire connaître monsieur que voici ? Je viens de la part de sa grandeur monseigneur l'archevêque d'Embrun. » Il était d'une bêtise tellement superlative qu'ils le prirent pour un homme d'esprit. On n'est guère de cette force-là, à moins de le faire exprès. Ils lui répondirent comme des capucins, les mains jointes, et entrèrent dans sa façon de parler.
« Monsieur que voilà, » commença l'officier, « est le chevalier de Bellevue. »«
Et monsieur que voici, » ajouta l'autre, « est le marquis de Meuse. »«
Qu'y a-t-il pour le service de sa grandeur ?» continua le premier.
« Sa grandeur fait demander à qui j'ai l'honneur de parler et s'informe en même temps de ce qu'elle peut faire pour vous être agréable. »
« Sa grandeur peut tenir dans notre reconnaissance toute la place que tient l'estomac dans la vie d'un homme. Nous mourrons de faim. »«
Voici une auberge. »«
Certainement, mais dans cette auberge, il ne reste plus même un morceau de pain, plus un bouillon, plus une cuisse d'alouette. »«
Je ne vois pas. »«
Comment ? Vous ne voyez pas sur la table de sa grandeur cet excellent chapon dont il reste plus de la moitié ? » Ce gigot, ce plat de cervelle frite et je ne sais quoi encore qui nous fait venir l'eau à la bouche.
Alors, vous voulez dîner ?
Parbleu, nous ne désirons rien au-delà.
Il les salua encore et revint à nous. J'avais tout entendu et je priais déjà l'archevêque de les faire appeler. L'abbé venait à pas compter. J'étais jeune, étourdie, impatiente, je m'élançai à la porte. « Messieurs, m'écriai-je, Monseigneur l'archevêque d'Embrun et la comtesse Alexandrine de Tansin, sa sœur, vous engagent à prendre votre part de ce régal qu'ils vous offrent très volontiers. »
« Et la belle ambassadrice, poursuivit le marquis de Meuse, qui, à mon premier mot, s'était élancé.
« C'est madame la marquise du Deffant, interrompit l'abbé, qui, pour la première fois de sa vie, eut un mot à dire à propos. Les remerciements les plus gracieux nous furent adressés. Ces messieurs acceptèrent et se mirent à table sans cérémonie. Le premier quart d'heure, ils mangèrent sans désemparer. Le second, ils commencèrent à lever les yeux. Le marquis de Meuse me regarda, je le regardai aussi. C'était un fort joli garçon que le marquis de Meuse. Nous ne rougîmes point, on ne rougissait guère sous la régence.
Le chevalier de Bellevue se tourna d'instinct vers madame de Tansin. Tous les deux avaient de l'esprit, de la malice, un peu plus même, de la méchanceté. Monsieur de Meuse, après avoir répondu aux premières questions assez insignifiantes de l'archevêque, m'en adressa d'autres qui ne l'étaient pas moins. Seulement, le tout était différent. Mes réponses l'étaient aussi. Nous parlions de la maison, du jardin, des gens qui les visitaient et des probabilités d'achat.
« Ce sera une danseuse. »« Ce sera un financier.
Ce sera un grand seigneur.
Et que diriez-vous, messieurs, si c'était un archevêque?
Ah, je dirais, monseigneur, qu'un seul archevêque en France a assez d'esprit pour ne pas être ridicule dans un ancien temple de Vénus.
Pardon, monsieur, nous exorcisons.
Il y a des diables qui résistent à tout, monseigneur.
Vous croyez?
Oui, ce sont les diables femelles. Lucifer lui-même ne les ferait pas décamper.
Tout en causant, tout en mangeant, le marquis me regardait, je le voyais bien. Pourtant, je fis comme si je ne le voyais pas, et il ne s'y laissa pas prendre. La nuit arrivait, il faisait un de ces temps qui rendent heureux même les misérables. Nous respirions, nous causions si doucement au milieu des fleurs, au bord de l'eau, que personne ne songeait à s'en aller. Madame de Tencin était fort paresseuse en voiture. Elle se souvint des chemins, et la première parla de retour.
« Ah, oh, nous sommes si bien ici !» s'écria son frère.
« Et si nous versons ?»«
Nous ne verserons point, mais si par hasard cela arrivait, nous en serions quittes pour nous ramasser. »«
Mon frère, vous plaisantez toujours. »«
Ma chère sœur, vous êtes trop craintive. Retournez-vous à Paris, messieurs. »«
Oui, monseigneur. »«
Nous ferons route ensemble. »
Nous serons trop heureux si vous voulez bien le permettre, monseigneur, et ces dames aussi.
Nous le permettions, et de toute notre bonne volonté.
La comtesse avait peur, et moi, je coquetais. L'abbé fut envoyé pour presser les gens, et la conversation continua. Elle devenait plus intime à mesure que la nuit tombait. Une langueur pleine de charme s'emparait de nos sens. Nous ressentions les effets ordinaires d'une digestion bien faite, dans des conditions d'aisance et de plaisir qui se reflètent sur toute chose. On prévint que tout était prêt. Nous nous levâmes, le marquis me donna la main, avec une bonne grâce et une galanterie remarquables. Nous arrivâmes près du carrosse de l'archevêque. J'y montai, madame de Tencin, sa grandeur, en firent autant, et les deux jeunes cavaliers rejoignirent leurs chaises. Ils avaient, prétendaient-ils, un chemin délicieux sur des gazons et qui raccourcissait de beaucoup. On convint donc que notre cocher suivrait le leur. Ils marchèrent devant, et notre gaieté se trouva montée à un ton peu accoutumé entre gens qui se voient pour la première fois.
« C'est un homme tout à fait du monde et d'esprit, un gentilhomme fort bien fait que ce marquis de Meuse !» commença l'archevêque.
Il a bon air, mais je lui préfère cependant le chevalier de Bellevue, reprit la comtesse Alexandrine.
Et vous, l'abbé?
Moi, je les préfère tous les deux.
C'était toujours ainsi que répondait l'abbé en pareil cas. La première heure, tout alla merveilleusement. Le temps était beau, le chemin admirable, la lune resplendissante. Nous nous jetions des plaisanteries d'un carrosse à l'autre. Nous roulions dans la forêt, et j'ai rarement fait un voyage plus délicieux. Après une heure, nous ne voyions pas la fin des arbres. Nous devions pourtant en être dehors.
« Ne vous inquiétez pas !» nous criait-on de la chaise. « Nous savons très bien où nous allons. Soyez tranquilles !»
L'abbé ouvrit un œil et le tourna du côté de l'horizon, puis dit sentencieusement
« Je crois qu'il pleuvra cette nuit. »
« Ah bah, l'abbé !» m'écriai-je. « Il ne peut pas pleuvoir aujourd'hui, c'est un trop beau jour. »«
J'ai grand-peur que vous ne vous trompiez, madame la marquise. » »«
Écoutez, ma reine, » ajouta madame de Tencin avec son accent traînard, qu'elle savait rendre très comique. « Il a toutes les qualités des canards, et ce sont d'excellents baromètres. » Nous nous mîmes à rire, et l'abbé autant que nous. Il ne comprenait pas. Une autre heure s'écoula. La prédiction prenait une apparence de réalité. Le temps se couvrait, le ciel devenait obscur, des éclairs brillaient dans le lointain. Nous avions quitté la forêt, nous trouvions encore quelques bouquets d'arbres de temps en temps, nous ne suivions pas de chemin tracé, et nous traversions une campagne fort déserte. La comtesse Alexandrine mitonna une peur soudaine, dont elle ne nous instruisit que par des soupirs. jusqu'au moment où un éclair déchira la nue et où un coup de tonnerre assez violent fit sauter un de nos chevaux.
« Nous sommes perdus ! Nous sommes perdus ! » s'écria-t-elle.
« Nous ne sommes pas perdus, » répliqua l'archevêque, « mais nous sommes égarés peut-être, et c'est ce qu'il faut savoir. L'abbé, qu'on appelle ces messieurs. »
Les deux carrosses s'arrêtèrent presque en même temps, et le marquis de Meuse vint à la portière.
« Eh bien, » lui dit monsieur de Tencin, « où allons-nous ? » ?»«
Ma foi, monseigneur, je ne le sais pas bien au juste, et nous étions en train de nous le demander, le chevalier et moi. « Je crois que notre gredin de postillon a trop bu et qu'il a perdu son chemin. »«
Miséricorde, monsieur, mais qu'allons-nous devenir ?»«
Mon Dieu, madame la comtesse, nous trouverons peut-être quelque chaumière ou quelque masure pour y passer la nuit. »«
Mais c'est impossible. Mais je ne le veux pas. Voilà l'orage et nous sommes peut-être entourés de brigands. »
« Ce lieu-ci n'a pas trop bonne réputation, en effet, madame la comtesse. »
« Vous en riez, monsieur ?»«
Je n'y vois guère que cela à faire, madame. »« Et, tenez, madame la marquise du Deffand rit aussi. »«
À l'âge de madame, on rit de tout. »«
Voyons, madame la comtesse, il fait un temps superbe. »«
Il pleut à verse. »«
Une chaleur étouffante. »« Vous êtes sur les coussins d'une bonne voiture. »« Le grand malheur de passer une nuit à la belle étoile. »«
Il n'y en a pas d'étoile. »
« Il y a la lune, cela revient au même, bien qu'elle soit cachée. »«
Et le souper ?»«
Nous irons à la maraude. »«
Et les voleurs ?»«
Nous sommes 7 hommes, sans compter monseigneur et le vaillant abbé. Nous en aurions raison. »«
Avez-vous des armes ?»«
Tout plein la chaise. »«
Ah, oh, la maudite partie !»«
Au contraire, madame, la charmante partie. Je n'en ai jamais fait de plus délicieuse. »
« Ni moi, » répliquai-je.
« Ni moi, » ajouta le chevalier.
Madame de Tencin prit ce mot à son adresse.
« Allons, » reprit-elle, « ni moi, puisqu'il le faut. »
Son air s'adoucit immédiatement. On tint conseil pour savoir ce que l'on devait faire. L'orage augmentait et menaçait de devenir formidable. Par une habitude de couvent, la comtesse Alexandrine faisait des signes de croix et poussait des exclamations à chaque éclair. Le marquis offrit de se mettre à la recherche avec ses gens. Elle ne le voulut point, dans la crainte des voleurs. Il proposa de rester où on était. Elle s'y refusa à cause de l'orage. Les arbres attirent la foudre. Il demanda à continuer notre route alors. Cela ne se pouvait pas, on s'égarerait davantage.
« Je ne vois pas un quatrième parti. »
Je riais toujours, et pour être juste, je dois ajouter que monseigneur d'Embrun faisait chorus. Quant à l'abbé, il dormait. La lumière le réveillait et il se frottait les yeux, retournait la tête en murmurant « Éteignez la chandelle !» Nous tournions dans un cercle vicieux. Heureusement, d'autres agissaient pendant que nous discutions. Mon laquais et celui du marquis, deux drôles assez délibérés, s'avancèrent jusqu'à nous et nous annoncèrent qu'ils avaient trouvé dans le voisinage une tour à côté d'une maison de paysans où l'on consentait à nous recevoir et même à nous donner à souper pour notre argent.
« Miséricorde, c'est une caverne !»«
Caverne ou grotte, ma chère comtesse, cela vaut mieux que notre carrosse mouillée. » Nous mangerons, nous laisserons passer l'orage, nous nous reposerons, on nous indiquera notre chemin. Le jour vient de bonne heure en cette saison, nous repartirons après. »
Elle fit encore beaucoup de difficultés, mais les plus nombreux l'emportèrent. Et bientôt nous fûmes installés dans une cabane fort propre où habitaient un mari et une femme, pas trop pauvres, qui nous firent une omelette passable, nous offrirent du cidre et du lait délicieux avec un pain bis, le meilleur qu'on pût voir. Cela me rappela Chanron. À côté, ainsi que l'avaient dit nos gens, il y avait une tour ruinée. Elle servit de hangar et de remise. On y fit entrer les chevaux et les voitures. On y installa les domestiques avec leur souper, et nous fûmes tous enchantés de notre bonne fortune. Excepté la comtesse, toutefois, qui regrettait son lit
et qui prétendait qu'elle ne savait pas avoir d'esprit sur un banc de bois.
Chapitre 58. Je vous laisse à penser ce que furent ce souper et cette nuit. Nous avions pris parti de rire de tout. De temps en temps, la comtesse jurait qu'on ouvrait des trappes et qu'il en sortirait des brigands armés jusqu'aux yeux et prêts à se jeter sur nous pour nous étrangler. Notre hôte, le plus pacifique des hommes, ressemblait à Cartouche ou à quelqu'un de ses lieutenants échappés au supplice. Elle l'avait vu rouer et elle était sûre de le reconnaître entre mille. À cela près, tout allait à merveille. Nous restâmes jusqu'au jour. On nous indiqua notre chemin, nous n'étions pas loin de Paris, et nous arrivâmes encore assez à temps pour retrouver nos lits et dormir quelques heures. Le marquis et le chevalier se firent inscrire chez moi dès le lendemain. Le marquis revint bientôt, je le reçus. Il revint souvent, il revint tous les jours, et nous finîmes par où beaucoup de gens commençaient alors. On m'assure que ce n'est pas comme cela aujourd'hui. Monsieur de Meuse avait infiniment d'esprit. Il était de la meilleure et de la plus haute compagnie. Il me fit faire connaissance avec une personne qui devait bientôt être la plus puissante du royaume, Madame la Marquise de Prie. Elle était fort connue comme maîtresse de Monsieur le Duc, premier prince du sang et petit-fils de Louis XIV, par sa mère, fille du feu roi et de Madame de Montespan. Nous étions jeunes toutes deux, elle un peu plus âgée, mais dans des voies différentes. Son père était Berthelot de Pleuneuf, homme d'affaires et financier, dont la famille s'était alliée cependant à des gens considérables, tels que les Matignon, les Novion et autres. Pleuneuf voulait surtout gagner de l'argent, et pour ce faire, il en semait. Madame de Pleuneuf le jetait par les fenêtres avec délice. Elle avait force galant. Le prince Charles, monsieur de Mazarin, Sénétaire, monsieur de Montmorency et bien d'autres. Pleuneuf ne s'en souciait pas. Pourvu qu'il remplît ses coffres n'importe comment, il était satisfait. Il fit si bien qu'en se mettant dans les vivres, il en vola la moitié et qu'il fut trop heureux de racheter sa vie en cédant tous ses biens. Sa fille était mariée déjà au marquis de Prie, ambassadeur à Turin. La mère et la fille étaient rivales en tout et se détestaient cordialement. Elles cherchaient à se nuire de toutes les manières. Aussi la fille triompha-t-elle complètement quand sa mère, ruinée, se vit réduite aux robes de bourracan. « Je lui donnerai ce qu'elle voudra, » disait-elle, « excepté de quoi s'embellir. » Je ne crois pas avoir jamais vu une plus jolie créature que celle-là, dans sa première jeunesse surtout. Elle était grande, faite autour, le visage gai et provoquant, le nez à faire tourner la tête, des cheveux cendrés, des dents, des pieds, des mains, un teint adorable, distinguée comme une déesse et fine comme un lutin. Elle avait tous les talents, une voix charmante, elle dansait à ravir, jouait du clavecin et étonnait tous ceux qui la voyaient par sa bonne grâce et son élégance. Sa rage, son idée unique, était la domination. Il fallait qu'elle commandât partout, et son orgueil était insatiable. Aussi galante que sa mère, elle eut des amants suivant son caprice et sans que son cœur s'y intéressât jamais. Elle passait sans transition d'un entretien amoureux à une discussion d'affaires. Elle était en même temps séduisante et froide, deux qualités essentielles pour conduire les hommes où on les veut mener. Madame de Prie fut mariée à 15 ans, suivit son mari à Turin et voulut déjà diriger l'ambassade. Elle y dépensa ce qui lui restait, si bien qu'ils se trouvèrent réduits à 6 ou 7 000 livres de rente, et qu'il lui fallait à son tour porter du bourracan si elle ne trouvait pas moyen de remonter le ménage. Elle persuada à ce pauvre ambassadeur de l'envoyer à Paris, se faisant fort d'obtenir quelques pensions ou quelques bénéfices qui les mettraient en possibilité de faire honneur à leurs affaires. Il y consentit. Elle avait 18 ans. En arrivant à Paris, elle commença par louer un petit appartement près de la Conception
et par le payer 500 livres pour son année. Ensuite, elle prit avec elle Madame Séchelle, sa tante, afin d'avoir un porte-respect. Et tout cela fait, elle se mit sur le chemin de Monsieur le Duc d'Orléans. Ses visées n'allaient pas à autre chose qu'à devenir sa maîtresse et à gouverner la France en son nom. Elle l'attendit d'abord dans la galerie du Palais Royal, un jour d'audience, et se fit nommer à lui par Monsieur de Nocé, qu'elle connaissait. Le régent la trouva jolie et lui dit quelques mots. Le lendemain, au bal masqué de l'opéra, elle le reconnut facilement. Il était ivre, ce qui ne rendait pas sa tâche aisée. Elle l'entreprit cependant, sans se rebuter, l'amusa, supporta ses galanteries vineuses, le flatta de toutes ses forces et finit par le suivre au palais royal, se croyant au comble de ses vœux. Il la conduisit en trébuchant jusqu'à une porte qui n'était pas celle de la maison de Nanette. Elle s'ouvrit devant eux et ils aperçurent une grande salle à manger, très éclairée. Madame la duchesse de Berry, Madame de Falaris, Madame de Parabère et tous les roués étaient en bataille. On juge de l'étonnement, elle qui comptait sur un tête-à-tête. Ils crurent la berner, mais elle avait autant d'esprit qu'eux. Elle était de sang-froid et elle leur répondit de façon à leur prouver que, s'ils lui laissaient mettre le pied chez le prince, elle les en chasserait. De ce moment, on jura qu'elle n'y paraîtrait plus. Monsieur le régent fut circonvenu, entouré, on lui fit 1000 contes, on lui prouva qu'elle l'ennuierait, qu'elle aurait des prétentions à la politique, ce qu'il haïssait à la mort. Il ne voulut plus la regarder. Elle en conserva une rancune qu'elle a bien fait payer depuis. Monsieur le duc d'Orléans écarté, il n'y avait plus qu'un seul homme en France digne d'elle, un seul qu'elle daigna avouer, sans préjudice des autres qu'elle cachait plus ou moins. Toutes ses batteries se tournèrent de ce côté-là, et la place était plus facile à prendre. Monsieur le duc était jeune, il n'était pas beau, il n'avait pas un de ces mérites qui font d'un prince un personnage, mais il était premier prince du sang, et, dans une minorité, c'est une de ces positions qui domine forcément la situation et l'état. La marquise se fit conduire chez Madame la Duchesse, non pas la mère, elle la craignait d'instinct, mais la jeune Mademoiselle de Conti, bonne et indolente, qui l'accueillit fort bien et qui la reçut au nombre de ses familières. Monsieur le Duc la vit et l'aima. Il alla la chercher fort souvent dans ce petit trou près de la Conception, qu'elle refusait de quitter sous prétexte d'économie. Elle avait alors 2 amants. Monsieur d'Alincourt, le même que Madame de Parabère garda si longtemps, et Lord Stair, ambassadeur d'Angleterre. Elle les congédia tous deux et songea à s'occuper sérieusement de sa fortune. Mais Monsieur le Duc, je l'ai dit, était affreux. Il lui déplaisait d'une façon presque invincible. Il lui fallut une lutte de plus d'un mois avec elle-même pour se décider à l'accueillir, après l'avoir provoqué. La chose faite, elle en réclama les avantages. Elle gouverna mieux Monsieur le Régent que s'il l'eût acceptée pour maîtresse, en inspirant à Monsieur le Duc des idées de contrôle et la volonté de faire compter avec lui. Ses prétentions ennuyèrent le cardinal Dubois. Pour les mettre à néant, il commença par essayer de perdre Madame de Prie. En conséquence, on décocha à Monsieur le Duc Madame de la Vrillière, mère du jeune Saint-Florentin, qu'on désirait faire duc et marier avec Mademoiselle de Platan. Elle était maillie en son nom. Son amant, Nangy, fut écarté comme d'Alincourt l'avait été avant lui, et Madame de la Vrillière se mit en devoir d'essayer cette conquête. Elle alla chez Monsieur le Duc à plusieurs reprises, bien qu'elle ne fût plus jeune. Elle était mignarde et charmante. Madame de Prie, étourdie par ses 18 ou 19 ans, ne se défia pas d'une femme qu'elle regardait comme vieille et qu'elle savait occuper ailleurs. Aussi, Madame de la Vrillière fit-elle beaucoup de chemin, et peut-être aurait-elle réussi à triompher si la mort de Monsieur le Duc d'Orléans ne fût venue à propos pour rompre ses visées. J'entends par triompher chasser madame de Prie, car pour les triomphes secrets, je crois bien qu'elle les a obtenus, personne n'en a douté. Ce sont des triomphes, si triomphe il y a, achetés par trop cher avec un homme comme monsieur le duc. Je n'en eusse voulu à aucun prix, je le jure. Cependant, le commerce marchait tant bien que mal, et lorsque monsieur le duc d'Orléans fut enlevé par l'apoplexie, l'abbé de Broglie, l'ami de monsieur le duc, comme Bonneau était celui de Charles VII, vint le chercher chez madame de Lavrillière, où il soupait fort tranquillement, et lui annonçait la catastrophe. Monsieur le régent, qui ne l'était plus, le roi étant majeur, n'était pas mort encore. « Monseigneur, vous n'avez qu'une chose à faire, et si vous la négligez, vous perdez tout votre avenir. Montez chez le roi à l'instant. Ne laissez pas le temps aux influences d'agir. Demandez-lui hardiment la place de premier ministre, à laquelle votre naissance vous donne le droit de prétendre. Il sera surpris et n'osera pas vous refuser. Si vous tardez, vous trouverez la place prise. »
Mais l'abbé... Mais, monseigneur, vous avez votre sort en vos mains pendant une demi-heure encore. Après cela, vous ne l'aurez plus.
Monseigneur, ajouta madame de Prie, dont le cœur palpitait, ne refusez pas.
Vous le voulez?
Je vais vous conduire. Le moment est favorable. Le roi est seul avec monsieur de Fréjus. Celui-ci peut tout sur lui. Dieu sait quelle pensée il a dans la tête et qui il veut mettre là. Si vous ne le prévenez par un coup inattendu, demain, en vous réveillant, vous apprendrez que vous avez un maître.
Allons donc, puisqu'il le faut.
Il se laissa emmener jusqu'à la porte du cabinet du roi, où l'abbé le poussa, pour ainsi dire. Il entra et trouva le jeune monarque avec son précepteur, la tête dans ses mains et fort affecté.
Sire, lui dit-il, je demande à votre majesté la place de premier ministre que monsieur le duc d'Orléans va laisser vacante. Je ne crois pas que personne puisse me la disputer. La naissance me rapproche de votre majesté. La jeunesse du duc de Chartres le rend incapable de gouverner un état comme la France. J'ai pris part aux affaires publiques pendant la régence. Toutes ces raisons décideront, je l'espère, votre majesté à ne pas repousser ma demande.
Le roi se tourna vers l'évêque de Fréjus. Celui-ci sentait parfaitement qu'il ne pouvait arriver d'un saut à la première place, en remplacement de l'oncle du roi, du neveu de Louis XIV. Il fallait une transition. Pendant ce temps, il s'élèverait jusqu'à pouvoir se rendre possible. La vieille taupe faisait son trou. Il connaissait monsieur le duc. Il savait d'avance qu'il lui donnerait 1000 prétextes de rupture lorsque le moment lui semblerait opportun. Il ne pouvait trouver un meilleur mannequin. Il avait donc prévenu son élève et lui avait fait sa leçon. Aussi, lorsque le roi lui demanda son avis muet, le précepteur hocha la tête, et Louis XV rendit ce même signe à monsieur le duc, qui s'en contenta et fit une belle révérence en retour. Aussitôt, monsieur de Fréjus ouvrit la porte. Il y avait dans le cabinet quelques gentilshommes, de ceux qui flairent tous les vents pour savoir de quel côté ils viennent. Il les fit entrer et leur dit que le roi voulait les voir. Ils ne se firent pas prier, vous le sentez bien. Et tout de suite, monsieur de Fréjus leur dit qu'après la perte que le roi venait de faire en la personne de monsieur le duc d'Orléans, il ne pouvait mieux faire que de remettre l'autorité entre les mains de monsieur le duc et de le prier d'accepter la place de premier ministre, qu'il était plus à même de remplir que pas un. Monsieur le duc trouva alors un remerciement qu'il avait mâchonné jusque-là. Monsieur de Lavrillière, qui ne se sentait pas d'aise, tira de sa poche le serment de premier ministre et le fit prêter sur l'heure au nouveau titulaire. Monsieur le duc sortit ensuite, et aussitôt il eut une grosse cour qu'il congédia, afin de se trouver seul, du moins l'espérait-il, mais il n'en fut pas ainsi. Madame la duchesse, sa mère, l'attendait dans le grand appartement, avec madame sa femme. Madame la duchesse était ravie et convaincue qu'elle allait tout mener dans l'état. Elle comptait sans madame de Prie et sans le caractère de monsieur son fils. Il se hâta de recevoir ses compliments et annonça qu'il était fatigué, qu'il voulait se reposer un peu. car il devait se lever le lendemain de très bonne heure. Il allait avoir une terrible besogne.
« Vous ne serez pas seul, mon fils, » lui dit madame la duchesse d'un air agréable.
« Tous nous vous aiderons, et vous ne manquerez pas d'amis dans la place que vous allez occuper. »
« Je ne m'inquiète point d'en avoir, madame. Les amis ne me sont pas utiles, car ils sont tous intéressés. Et quant à ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin non plus que l'on m'aide. C'est une tâche que je remplirai seule. Ne l'oubliez pas, je vous prie, que cela soit une fois dit. »
Madame la duchesse, pour une femme d'esprit, avait fait là une fière école. La jeune duchesse ne dit pas un mot. Elle savait trop à qui elle s'adressait. Monsieur le duc sortit et retourna dans son appartement. Il congédia à la porte quelques courtisans qui l'avaient suivi. Comme il se disposait à entrer, son valet de chambre de confiance lui dit très respectueusement, tout bas,
« Si monseigneur veut m'en croire, il prendra le petit degré. »«
Pourquoi cela ?»«
La chambre à coucher de monseigneur est occupée par madame la marquise de Prie. » Et le cabinet de monseigneur par madame de Lavrillière.
Ah, dit le prince,
c'est aussi prendre trop de liberté. Se sont-elles vues?
Non, monseigneur, grâce à Dieu.
Un bruit de voix, fort impétueuse, leur apprit que le « grâce à Dieu » n'était plus de saison.
Chapitre 59. Madame de Prie s'impatientait dans cette chambre et ne l'aurait quittée pour rien au monde. Elle avait eu vent de la bonne fortune. Elle se promenait, fort agitée, se demandant si elle ne devait pas aller chez madame la duchesse, où le prince se rendrait certainement d'abord. Une réflexion l'arrêta. Elle ne pourrait parler à son aise et établir ses conditions. L'idée lui vint d'écrire une lettre, je ne sais à qui. Elle chercha autour d'elle une plume et de l'encre et n'en trouva pas. Sans y attacher d'autre importance, elle entra dans le cabinet et marcha droit vers le bureau, auprès duquel se tenait assise madame de Lavrillière, dans une impatience plus vive encore, si c'est possible, puisqu'elle était moins sûre de sa puissance. Elles se rencontrèrent nez à nez. Madame de Prie poussa un cri de surprise et de colère. Elle s'avança vers madame de Lavrillière et lui demanda d'un ton impérieux ce qu'elle faisait là.
« Et vous, madame ? » répliqua l'autre.
« Moi ? » répondit madame de Prie en s'installant carrément dans un fauteuil.
« Moi, j'attends monsieur le duc, et j'ai le droit de l'attendre chez lui, puisqu'il est mon amant. »
Madame de Lavrillière resta abasourdie. Elle ne croyait pas à tant d'audace, chez une femme aussi jeune surtout.
« Je vous ai dit ce que je fais ici, madame. Et pourquoi j'ai le droit d'y être? Je vous dirai à mon tour. Et vous ?»«
Monsieur le duc m'a donné audience, madame. »«
À cette heure ?»
reprit-elle du ton le plus aimable et comme avec un intérêt plein de bienveillance.
« C'est donc bien pressé. »«
Oui, madame, » riposta sèchement madame de Lavrillière.
« Ah, je devine, c'est pour le mariage de monsieur votre fils. C'est un charmant jeune homme que monsieur votre fils. Je l'ai beaucoup connu quand nous étions enfants. Nous allions jouer ensemble chez madame la présidente de Morville. On trouvait qu'il ressemblait beaucoup à monsieur de Nangis.
« Ah, vous alliez jouer chez la présidente de Morville, madame ? C'était sans doute avant les galères de monsieur votre père, dont il s'est si adroitement tiré. » Madame de Lavrillière croyait avoir rendu la monnaie du coup qu'on lui portait. Elle ne connaissait pas son adversaire. Celle-ci éclata de rire et la regarda en face.
« Ah, mon Dieu, madame, que vous voilà contente de cette phrase-là, n'est-ce pas? Et comme vous vous trompez en croyant me blesser! Que m'importe monsieur de Pleuneuf et ses galères? Qu'ai-je à voir avec tout cela, moi? Je suis la marquise de Prie, j'ai 20 ans, je suis belle. » Je suis riche, je suis aimée, je vais devenir puissante. Que me fait le reste ?
Madame de Lavrillière n'avait rien à répondre à cela. Elle se voyait prise. En même temps, elle prévoyait fort bien qu'une rivale de cette sorte ne serait pas facile à chasser. Elle cherchait une réponse, tâchant de se contenir et de ne pas démasquer ses batteries.
« Je vous demande pardon, madame, je vous quitte la place. »
puisque son Altesse Sérénissime ne vient pas.
« Non, non !» interrompit Madame de Prie en la retenant. « Vous iriez vous mettre sur le degré. Vous n'y gagneriez pas grand-chose, au moins. Mais vous le retarderiez, et cela me ferait attendre. Il vaut mieux rester à causer toutes les deux, une bonne fois, et il n'y aura plus à y revenir. »
Madame de Lavrivière s'était levée. Elle ne reprit pas son siège, mais elle ne s'en alla pas.
« Voyons, madame, vous avez été, vous êtes encore la maîtresse de monsieur le duc, n'est-il pas vrai ?»«
Mais madame, de quel droit ?»«
Je vous l'ai dit, mon droit, vous le savez, n'en parlons donc plus. Il n'est pas question de moi, c'est de vous. Cette vieille bête puante de Dubois avait imaginé de vous lâcher après monsieur le duc, pour le retenir et me renvoyer, parce que je l'embarrassais et que je lui soufflais un peu de mon énergie. »
« Ne le niez pas, je le sais. Je l'ai su le lendemain. Cela ne m'a pas même empêché de dormir une heure. Me croyez-vous jalouse de monsieur le duc, par hasard ?»
Madame de Lavrivière ne savait en vérité quelle figure faire devant cette étrange créature qui ne ménageait rien, qui ne se fâchait de rien, et qui d'elle-même allait plus loin qu'on eût pu la conduire en la haïssant.
« En vérité, madame, permettez-moi de me retirer. »
non pas, je n'entends pas cela. Il faut en finir, vous dis-je. Il faut que vous soyez bien éclairé sur ce qui vous attend. Nous serons plus tranquilles après. »
Je ne suis pas inquiète, je vous assure. »
Oh, que si! Et vous voyez crouler vos beaux projets, je les connais tous. Ce n'est peut-être pas vous, au fond. Vous préférez monsieur de Nangis, un amant de tant d'années, bien fait, brave et charmant, à ce prince scrofuleux, laid, désagréable, et cela se conçoit à merveille. Croyez-moi, retournez à lui. Il vous aime depuis si longtemps qu'il reviendra. Quant à moi, voici mon projet, et voici ce qui va arriver à dater de cette nuit. »
Madame de Lavrivière, intéressée malgré elle, s'assit sans s'en apercevoir.
« Je vais gouverner la France, madame, je vous le dis, et je ne vous demande pas le secret. Le premier ministre, ce sera moi, et non monsieur le duc. Non qu'il en soit incapable, mais parce que sa volonté m'appartient, parce que je sais la conduire d'une sorte qu'il n'aura pas même l'envie de m'en empêcher. Ma force, je la connais seule, et je l'ai découverte promptement. » Si vous cherchiez bien, vous la découvririez aussi. »
Madame de Lavrivière trouva l'occasion de prendre un air superbe, comme pour dire que cela lui était bien égal. Madame de Prie recommença à rire et à se moquer de celle qu'elle écrasait. Elle continua son discours et lui prouva clairement qu'elle n'avait rien à prétendre. La malencontreuse postulante prit un peu tardivement son parti et ne fut plus embarrassée que de trouver une sortie. Sa rivale l'acheva.
« Je suis charmée d'avoir causé avec vous, madame, bien charmée. Nous nous entendons tout à fait, et pour vous le prouver, je vous demande une chose. »
« Qu'est-ce donc ?
Restez ici avec moi. Attendez, monsieur le duc, soyez la première à le féliciter. Il ne l'oubliera pas, et cela pourra vous servir. » D'ailleurs, je suis, moi, tout à votre service. »
La pauvre madame de Lavrivière n'eut pas la force de se contenir. Elle éclata.
On ne la craignait même pas.
Elle se mit à répondre alors, à rejeter à madame de Prie ses malheurs, sa conduite, tout ce qu'elle put imaginer de plus sensible. La favorite l'écouta et la regarda sans sourciller, le sourire sur les lèvres, et comme si elle eût parlé à son voisin. Elle la laissa bien finir, et profitant d'un moment de repos que prenait l'autre pour respirer,
« Allez, madame, ne vous gênez pas, tout ceci peut être vrai, mais je vous défie de m'appeler vieille femme, et c'est ce qui vous enrage. »
Pour le coup, madame de Lavrivière trépigna des pieds, et ce fut en ce moment que monsieur le duc arriva. Il resta stupéfait, ou du moins faisant semblant de l'être. Madame de Prie l'aperçut la première, elle qui ne s'emportait pas.
« Ah, monseigneur ! » s'écria-t-elle en courant vers lui. Je suis bien heureuse de vous dire enfin toute la joie où je suis, et j'espère que vous n'en doutez pas. »
« Madame, » répliqua le duc en la repoussant légèrement de la main.
« Ah, c'est à cause de cette chère femme-là, ma meilleure amie. Ne craignez pas, monsieur, je ne lui ai rien caché. Et nous nous aimons à la rage. Demandez-lui plutôt. »
Madame de Lavrivière profitait du moment et s'éclipsait par une autre issue. Dès qu'elle eut disparu, Madame de Prie éclata de rire et battit ses mains l'une contre l'autre. Monsieur le duc la trouva si drôle qu'il ne put s'empêcher d'en faire autant, malgré un peu de mauvaise humeur, qui se dissipa bien vite. Ils entrèrent ensuite dans l'intérieur de l'appartement, et le lendemain, selon sa prédiction, Madame de Prie était premier ministre. Je l'avais connue, ainsi que je l'ai raconté, avec monsieur de Meuse, et nous nous étions fort divertis dans des parties fort amusantes. Elle ne l'oublia pas, et je la trouvai la même dans sa faveur. Elle m'accorda ce que je voulus, je n'en abusai pas. Je continuai seulement à la voir comme avant son élévation, moins souvent, il est vrai, elle avait autre chose à faire. Monsieur le duc n'était pas un homme aimable. J'ai soupé avec lui dans l'intimité de l'intérieur, et je n'ai point gardé l'ombre d'un souvenir de ces festins-là. Si ce n'est que monsieur le duc aimait passionnément les écrevisses et qu'il lui en fallait tous les jours des plus belles qui se puissent voir. Il les faisait accommoder au piment. Tout le monde sait qu'il fut chassé pour avoir essayé une lutte avec le cardinal Fleury par les instigations de madame de Prie, laquelle, ayant fait Marie Ledzinska reine de France, se croyait sûre de son appui et s'imaginait pouvoir emporter la place d'assaut. Elle oublia dans cette circonstance sa sagacité ordinaire. Elle ne calcula ni sur le caractère du roi, ni sur celui de la reine, ni surtout sur celui du vieux précepteur. Le roi devait croire et écouter celui-ci de préférence à tout autre. La reine, disait-on, timide, ne pouvait rien soutenir contre lui, ne pouvait surtout soutenir madame de Prie, le grand scandale de la cour. Ils furent sacrifiés aussitôt que Fleury donna à son élève le choix entre eux et lui. Monsieur le duc fut renvoyé comme un laquais et madame de Prie exilée à sa terre de Courbépine. Elle était à son clavecin quand on lui apporta la lettre de cachet et elle ne se doutait de rien du tout. Le roi était à Rambouillet, chez monsieur le comte de Toulouse, et elle y croyait monsieur le duc également, tandis qu'un lieutenant des gardes le conduisait déjà à Chantilly. On lui laissa à peine le temps de rassembler quelques hardes et d'appeler ses femmes. On ne lui permit de toucher à aucun de ses papiers. « Et les lettres de mes amants, si j'en ai ?» dit-elle avec sa hardiesse ordinaire. « Eh bien, madame, on les lira, mais soyez tranquille. » Personne n'en aura connaissance que monseigneur l'évêque de Fréjus. Eh bien, il pourra les montrer à la princesse de Carignan dans leur tête-à-tête. Cela les ragaillardira, ces deux vénérables. Jamais on ne vit femme plus effrontée, je vous l'ai dit.
Elle s'en alla la tête haute, superbe, criant que la reine était une ingrate, que le roi était un enfant et le vieux Fleury un poisson. Qu'elle le savait bien et qu'on le verrait plus tard. Elle l'écrivit, s'il vous plaît, à l'abbé de Broglie, je crois, ou je ne sais à qui, tout à fait placé dans la faveur de l'évêque, espérant qu'on lui montrerait. On n'y manqua pas. Elle arriva à sa terre de Courbépine, absolument comme un enfant qui naît. Elle écrivit mille folies à ses amis, les engageant à aller la voir s'ils ne craignaient pas d'attraper la peste. On a dit qu'elle croyait rentrer à la cour et qu'elle n'avait accepté sa disgrâce qu'après avoir perdu sa place de dame du palais de la reine. Cela n'est pas vrai. Elle ne conserva plus d'espérance du moment où elle quittait Paris et où le Fréjus avait eu le pouvoir de faire chasser monsieur le duc. On a dit aussi, que ne dit-on pas, sur les malheureux surtout. On a dit que madame de Prie, le jour de son départ,
avait fait ses adieux à un amant de bas étage, que ses voisins avaient assisté à tout par une fenêtre ouverte. C'est encore un mensonge. Je ne nie pas qu'elle n'eût un amant. Plusieurs, peut-être. Mais assurément, il n'était pas de bas étage. Celui qu'elle quitta avec tant de peine était justement un jeune lord, dont j'ai oublié le nom, mais de la plus haute naissance. Il vint la voir à Courbépine, et nous nous y rencontrâmes ensemble. Monsieur de Meuse et moi, nous ne manquâmes d'aller la trouver, et même plusieurs fois. Elle ne se démentit pas en apparence, mais le chagrin la prit sans qu'elle en convînt jamais, avec qui que ce fût, même avec ses meilleurs amis. Nous la voyions dépérir chaque jour. Elle changeait d'une manière effrayante. Nous voulûmes tâcher de lui rendre sa gaieté, et pendant un séjour que je fis chez elle, nous nous étions mises à nous envoyer chaque matin un couplet de chansons satiriques. Elle m'en décocha un contre mon goût sur l'air « Tout va qu'à un cas ». Je lui répondis par celui-ci, qui est tout à fait dans le genre de Chapelain, auteur de « La Pucelle », et sur l'air « Quand Moïse fit défense ». On l'a retrouvé dans mes papiers. Le voici. Quand mon goût, au tien contraire, de prix te semble mauvais, de l'écrevisse et sa mère te rappelle le procès. Pour citer Jean plus habile, nous lisons dans l'Évangile que paille en l'œil du voisin, coque plus que poutre au sien. Voltaire m'a toujours dit que le second vers était faux. Il ajoutait que les femmes de qualité ne se devaient pas mêler de poésie, mais qu'elles écrivaient admirablement en prose. La pauvre Madame de Prie avait 25 ans lors de son exil. Elle devint comme une figure de cire l'année suivante, et nous la priâmes de voir ses médecins. Elle fit venir Silva, celui de Monsieur le Duc. Elle en avait un attitré. Tous les deux la traitèrent de malade imaginaire. Comme elle souffrait réellement beaucoup, elle nous envoya une consultation pour Chirac, médecin du roi et de feu Monsieur le Régent, fort à la mode et fort habile. Je la lui portai moi-même. Il la lut très attentivement. Puis il me fit beaucoup de questions sur l'âge de Madame de Prie, sur son visage, sur sa maigreur, enfin tout ce qu'il désirait savoir. Je lui répondis suivant la vérité. Il se mit à rire. « Vous êtes très sûre de tout cela, madame ?»« Comment, si j'en suis sûre ?»« Eh bien, Madame de Prie, à son âge, avec sa constitution, avec ce que vous me dites de son visage et de sa force, Madame de Prie vivra longtemps. Elle ira à son siècle si elle ne meurt que de cette maladie-là. »« Je vous assure, monsieur, que c'est très sérieux et qu'elle est horriblement changée. » Ce sont des vapeurs, c'est de l'ennui, du chagrin, cela se dissipera, et dans quelques mois il n'y paraîtra plus. Elle est gaie, dites-vous? Très gaie, mais elle se contraint. Si elle souffrait, elle ne serait pas gaie. On ne se contraint pas à ce point-là. Rassurez-vous, madame, ce ne sera rien. Je lui porterai moi-même cet arrêt consolant. Puisse-t-il se vérifier? Je partis en effet pour Courbépine, et dès mon arrivée, les gens me prévinrent que la marquise semblait fort abattue et qu'elle n'avait pas un instant de sommeil. Je courus vers elle. Elle me reçut avec un pauvre visage pâle et défait à faire pitié. Elle s'efforça de rire et de plaisanter. « Ce n'est rien, lui dis-je. Chirac a rendu son oracle. Vous vivrez 100 ans. » Elle ne me répondit que par un triste sourire. Chapitre 60. Oui, ma reine, oui, vous vivrez 100 ans. Vous avez des vapeurs. Vous êtes comme Monsieur Argan, et je viens pour remplir l'office de Toinette. Ma belle, que n'avez-vous amené Monsieur Diafoirus? Il nous aurait divertis, car nous voilà comme des abandonnés. Nous n'en avons pas besoin. D'ailleurs, le président Hinault arrivera demain, à ce qu'on m'a dit. Pauvre président, c'est un bon ami. S'il ne se hâte pas, nous ne nous reverrons plus. Madame, je mourrai cette nuit. Quelle idée!
Attendez au moins le diafoirus que vous désirez, il vous donnera ses remèdes. »
Je jouais, mais son pauvre visage était si changé que je tremblais de toutes mes forces.
« Soyez tranquille, chère marquise, je ne vous dérangerai pas. Je sais trop mon monde pour ennuyer les gens de ma mort, après les avoir ennuyés le moins possible pendant ma vie.
Je ne vous quitterai point.
Vous me quitterez pour aller dormir. Nous souperons ensemble. Nous tâcherons de bien rire une dernière fois. Nous nous embrasserons, et demain, à votre réveil, je verrai de l'autre monde si vous me regrettez.
Quoi ? Souper en l'état où vous êtes ?
Ma reine, Chirac assure que je ne suis point malade. Je ne ferai pas mentir le premier médecin de sa majesté, et je mourrai les armes à la main.
Reposez-vous plutôt, ma chère marquise. Je causerai avec vous, et vous vous endormirez insensiblement.
Pas du tout, je vais me faire belle. Vous serez la dernière personne de ce monde que j'aurai vue, et cette dernière personne m'aura vue parée. J'arriverai ainsi chez les morts. Pluton ne fera pas la grimace. »
Quoi que je puisse dire et faire, elle le voulut ainsi, et on nous servit, dans un petit cabinet, fort orné et plein de fantaisies ruineuses, un souper digne des gourmets les plus renommés. Quant à Madame de Prie, elle était en effet belle et parée. Elle s'était mis du rouge, non pas un pied, mais juste assez pour imiter les couleurs naturelles. Elle me fit l'illusion d'un souvenir du beau temps. Elle ne mangea que du bout des doigts. Elle but quelques verres de vin d'Espagne, qu'elle aimait fort. Elle fut étincelante d'esprit, de gaieté. Puis tout à coup, elle se trouva mal. Nous la fîmes revenir, nous la soignâmes, ses femmes et moi. Je voulais la coucher.
« Non pas, » dit-elle, « je n'ai pas fini de souper et je veux m'y remettre. »
Elle ne nous écouta point, il fallut lui obéir. Elle continua et reprit la conversation où elle l'avait laissée, me parlant d'elle-même comme si elle n'était plus, me chargeant de ses commissions, de ses souhaits, de mille folies pour ceux qu'elle aimait ou qu'elle connaissait simplement.
« On m'a donné beaucoup d'amants, ma reine. J'en ai bien eu quelques-uns, je l'avoue. Je ne les regrette pas. Ils ne valaient pas la peine d'être aimés. Vous vous chargerez de voir monsieur le duc. Je suis sûre qu'il en prendra vite son parti. Il était heureux de se débarrasser de moi. Mon secret pour le diriger autrefois n'était ni mon esprit ni sa tendresse, mais simplement la peur qu'il avait de madame la duchesse sa mère. Si je n'eusse pas été là, elle serait venue s'y établir. Il eût fallu un coup d'autorité pour la chasser. Il en était incapable. J'étais un préservatif, voilà tout. Lorsqu'il fut 1 heure du matin, elle m'engagea à me retirer.
« Je me suis fatiguée, il faut que je dorme, je suis bien. »«
C'est-il sûr ?»«
Je vous en réponds, croyez-moi. »«
Bonne nuit, chère reine, embrassons-nous. »«
À demain. »«
Oui, à demain, à demain. »« On va vous conduire à votre appartement. »
Je l'embrassai en effet avec tendresse. Je ne devais plus la revoir que morte. Je dormis comme de coutume, et lorsque je m'éveillais, une femme de chambre me remit fort tristement un petit billet contenant ces 3 mots seulement. « Adieu, chère reine, je pars. J'ai défendu qu'on vous réveillât. »«
Comment ? » m'écriai-je. « Madame de Prie ? » ?»«
Hélas, madame, elle a passé sur les 4 heures du matin. »
« Vous ne m'avez pas appelée ?»«
Madame l'a expressément défendue. Monsieur le président Hainaut est arrivé.
Priez-le de venir. Il est nécessaire que nous nous voyions. »
Je me requinquai un peu, car dès cette époque, le président commençait à me faire la cour. Il vint et nous nous lamentâmes. Ce n'était pas tout. Il fallait aviser, prévenir la famille. Les soins de ce terrible moment ne nous regardaient pas. Le président se chargea d'écrire, de donner les premiers ordres. Quant à moi, je déclarai que je partirais le jour même après avoir dit un dernier adieu à ma pauvre amie. Monsieur de Meuse devait venir me rejoindre, et je voulais lui épargner ce spectacle. Je partis, en effet. Le président me débita force galanterie en me reconduisant à mon carrosse. Bien qu'il ne fût plus tout jeune, il avait bien de l'esprit. La mort de Madame de Prie ne fit pas le moindre bruit à Paris. Je l'annonçai à nos amis, à ceux qui, du temps de sa faveur, l'avaient le plus adulée. On me répondait, entre deux phrases sur l'opéra ou l'anecdote de la veille, « La pauvre marquise, vraiment, c'est mourir bien jeune. » Et puis on parlait d'autre chose. Madame de Parabère seule en fut assez frappée. Elle était en tristesse et en mauvaise humeur. Son amant, monsieur le premier président, monsieur de Béringhen, l'avait quittée. Elle était en train de prendre d'Alincourt, que Madame de Prie avait abandonné autrefois pour monsieur le régent. « Ah ! » dit-elle, « ce d'Alincourt me portera malheur. Voilà la troisième maîtresse qu'il enterre en 6 mois. Après cela, mon influence sera peut-être plus forte que la sienne. Je suis un porte-malheur plus certain que lui, vous vous en souvenez. » Cependant, elle s'en préoccupa. Monsieur de Meuse était plaisant, on le sait. Il était fort souffrant, et cette rage de plaisanter ne le quittait même pas pendant sa maladie. On lui conseilla de voir Isée, de la faculté de médecine, personnage grave et compassé, peureux et orgueilleux en même temps. Il tenait à la fois de Sganarelle et de Purgon. Monsieur de Meuse s'en amusa fort et nous parla de lui pendant plus de 15 jours, comme d'un vrai personnage de comédie. Juste à cette époque, il arriva à se mémiser une aventure qui fit un bruit terrible, et dont je n'eus la clé que bien plus tard. Le roi et le cardinal s'en mêlèrent. Tout Paris s'en agita. On ne parlait d'autre chose. Et pour ma part, je m'égosillais en conjecture. Voici le fait. Un soir, assez tard, Isée reçut un billet par lequel on l'engageait à se rendre, le lendemain, à 6 heures, rue du Pot-de-Fer, près du Luxembourg. Il tenait à gagner de l'argent, à agrandir le cercle de ses pratiques. Il s'y rendit, et trouva un homme qui l'attendait et le pria de le suivre. « Ce n'est donc pas ici ?»«
Non, monsieur, c'est tout près. »
Isée crut à quelque accouchement clandestin et ne fit aucune réflexion. Cela lui arrivait souvent. On le conduisit à une porte assez mesquine. L'homme frappa, on lui ouvrit, il fit entrer Isée et resta dans la rue. Le portier se présenta et dit à Isée de monter au premier qu'on l'attendait. Il monta et entra dans une antichambre tendue de blanc où tout était blanc. Un laquais, fait à peindre, vêtu de blanc des pieds à la tête, poudré à frimas, avec la bourse de cheveux blanches, vint à lui, fit une profonde révérence et lui dit, en s'agenouillant près de lui avec un torchon à chaque main, « Permettez, monsieur. »«
Quoi ?
Il faut vous essuyer les pieds. »«
C'est inutile, je n'ai pas marché, je sors de ma chaise. »«
Il le faut, monsieur, j'ai mes ordres. » Le médecin se laissa faire, un peu étonné. Ses allures étaient étranges. La cérémonie faite, on lui ouvrit 2 autres pièces, tendues de blanc, comme la première. Au bout de la seconde, il aperçut un nouveau laquais, vêtu comme l'autre, et qui, bon gré mal gré, recommença l'essuiement. Enfin, on l'introduisit dans une chambre à coucher, où les murs, les fauteuils, les rideaux, les tables, le plancher, le plafond, tout était blanc. Un personnage en bonnet de nuit, en robe de chambre, blanche comme le reste, avec un masque blanc, était assis près de la cheminée. Dès qu'il aperçut Isée, il resta un instant à la regarder. Puis il lui dit d'un ton sépulcral, « J'ai le diable dans le corps. »«
Eh bien, monsieur, que voulez-vous que j'y fasse ?»«
Je ne vous ai pas fait venir pour parler. Attendez et taisez-vous. » Puis il prit des gants blancs, placés à côté de lui sur une table. Il y en avait 6 paires. Il les mit et les ôta alternativement pendant 3 quarts d'heure, sans souffler mot. Isée le regardait et pensait avoir affaire à un fou. Sa peur devint bien plus grande lorsqu'il aperçut autour de lui, sur les murailles, tout un arsenal. il fut saisi d'un tremblement universel et s'assit, bien qu'on ne l'y eût pas engagé. Il ne se soutenait plus. Il avait grande envie d'être loin.
« Monsieur, dit-il tremblant toujours, donnez-moi vos ordres, je vous prie. Je suis attendu chez mes malades, et mon temps ne m'appartient point. »
« Taisez-vous, répliqua l'autre d'une voix formidable. « Je vous paierai bien, que vous importe, vous n'avez rien à dire. »
Puis il recommença pendant un quart d'heure à essayer ses gants, et le silence régnait partout. Il tira le cordon de sa sonnette, cordon blanc comme le reste. Les deux estafiers arrivèrent, apportant des bandes et toutes sortes de cuvettes et d'instruments.
« Tirez-moi tout à l'heure 5 livres de sang !»
commença le fantôme.
« Miséricorde, monsieur, et qui vous a donné une pareille ordonnance ?»«
Moi ?»«
Vous ? Cela ne suffit pas, monsieur. Je ne puis agir que sous la responsabilité d'un de mes confrères ou la mienne. Laissez-moi au moins m'assurer de votre état. »
« Je vous le défends. Comment ? Je ne suis pas le maître de me faire tirer du sang, si bon me semble. Mon sang m'appartient. Tirez-le et hâtez-vous. »
Il fallut s'exécuter. Mais Isée avait peur. Il n'osait saigner au bras, dans la crainte de mal faire, et se décida pour le pied, où le danger est moindre. Tirant le blanc, ôta alors un bas de fil très fin, puis successivement 10 paires les unes après les autres. Enfin un chausson de castor doublé de satin blanc et montra la plus jolie jambe et le plus joli pied du monde.
« C'est une femme !» pensa Isée.
Il piqua, le sang vint. À la seconde palette, l'homme se trouva mal. Le premier mouvement du médecin fut de lui ôter son masque.
« Gardez-vous-en comme du reste, monsieur !»
s'écrièrent les deux laquais. « Ou nous vous ferons un mauvais parti. » On étendit le malade par terre, on banda son pied, et peu à peu, il revint à lui.
« Chauffez mon lit et couchez-moi, » dit-il d'une voix mourante.
On obéit aussitôt. Isée, de plus en plus intriguée et pas rassurée du tout, s'approcha de la cheminée pour essuyer sa lancette. Il sentit une main sur son épaule, et vit derrière lui la grande figure, clopin-clopant, un pied en l'air, en chemise, ayant quitté ses draps, et lui criant d'un ton assez haut pour un saignier qui se soutenait à peine.
« Voilà 5 écus, prenez-les »
Il les prit.
« Êtes-vous content ?»«
Oui. »«
Allez-vous-en alors, et vite !»
L'autre ne se le fit pas répéter, et partit. Il retrouva les laquais qui l'escortaient avec 10 bougies et qui semblaient se retenir pour rire, ce qui le mit en colère.
« Ah, ça, maraud, qu'est-ce que cela ? Vous moquez-vous de moi ? Quelle est cette plaisanterie ?»«
Monsieur, on ne vous a fait aucun mal, n'est-ce pas ? On vous a bien payé, que vous importe ? Allez-vous-en et n'en demandez pas davantage. »
Ils le conduisirent jusqu'à sa chaise, et jamais il ne fut si aise de sa vie que d'être hors de là. Il se résolut à n'en point parler, ne sachant pas ce qu'il en résulterait pour lui.